Max Jasinski, Griselidis. Griselidis avait été bergère. Son seigneur, touché de sa grâce et de sa beauté, l'avait épousée. Or, quoique devenue châtelaine, elle eut des pages pour la servir et des hommes d'armes pour l'escorter. Quoiqu'elle fût revêtue de velours, de brocart et de fourrure coûteuse, son cœur était demeuré ingénu. Femme d'un puissant baron, mère d'une fillette déjà belle et d'un garçon déjà robuste, elle était sans égoïsme et sans orgueil. Ses pensées n'allaient pas vers elle, mais elles allaient vers les autres. À son lever, elle se disait « Comment faire passer au mien une journée heureuse ?» Et le soir, avant de s'endormir, elle se demandait « Ai-je aujourd'hui bien accompli tout mon devoir de faire mériter mon bonheur ?» Assurément, une créature humaine, nulle créature humaine n'était plus digne de respect et d'amour. Et comme il arrive quelquefois que la vertu ici-bas soit récompensée, quelquefois, tous avaient pour Griselidis de la vénération. Lorsque, dans la campagne, elle se promenait avec, sur sa paisible hackney, tous les fronts s'inclinaient devant elle. Les bêtes même tournaient la tête vers elle et des regards tendres. Et le vent semblait faire flotter, comme une caresse autour d'elle, ses longs voiles blancs. Lorsqu'elle s'asseyait, sous le nez seigneurial, à la table de famille, époux, âme, enfant, écuyer et valet contemplaient son fin et délicat visage avec une sorte d'adoration, autant que si c'eût été le visage d'un ange. Un soir, pourtant, comme elle allait prendre sa place accoutumée, elle s'aperçut que son siège avait été enlevé et qu'au lieu de deux fauteuils en chêne surmontés de dais, il y en avait seulement un. Elle s'arrêta interdite sur le seuil de la salle et regarda son époux. « Griselidis, dit celui-ci. « Désormais, vous ne vous asseoirez plus à notre table parmi nous. Vous aiderez les valets et vous mangerez avec eux à la cuisine. » La pauvre femme pâlit et d'une voix tremblante demanda « Ai-je commis quelque faute, monseigneur ?»« Non, Griselidis. » Mais telle est ma volonté. J'obéirai, monseigneur. Une semaine durant, elle servit à table, mangea dans la cuisine, et de sa bouche ne tomba aucune plainte. Et dans ses yeux clairs, il n'y eut que de la douceur. La semaine écoulée, comme elle emportait un plat de vide, un rappel de son époux l'arrêta. « Vous êtes, lui dit-il, pour une servante trop élégante d'habits et de coiffure. Laissez ces bijoux. Couvrez-vous de grosses toiles et de belles têtes nues. « Monseigneur, j'obéirai, dit Griselidis. » Et pendant une semaine, elle fit office de servante accoutrée comme la plus pauvre des campagnardes. À la fin de la semaine, comme elle se retirait, son époux la fit rester encore, et devant les enfants, les écuyers muets de stupeur et de désolation, il lui signifia qu'il s'était choisi une autre femme, et que, conséquemment, elle eut à loger dans une petite mansarde sous le toit du château. Cette fois, Chrysélidis faillit s'évanouir. Elle se raidit pourtant sous ce nouveau coup, livide, mais silencieuse. Elle alla humblement baiser la main de celui qu'elle aimait, puis, sans un mot, quitta la grande salle où, à la lumière des lampes, étincelait la vaisselle d'argent. Le lendemain, une femme plus jeune qu'elle, splendidement costumée, fit dans la cour d'honneur une entrée solennelle, et parmi la valetaille respectueusement inclinée, Chrysélidis s'inclina elle aussi devant sa rivale. Il y eut le soir un grand festin où des convives innombrables vidèrent des tonneaux de vin et dévorèrent des sangliers entiers, les trouvèrent au son des luttes et des viols, chantèrent les exploits de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. Et pendant que se déroulait la fête, pendant qu'éclataient les rires grossiers dans le fracas des plats heurtés et des pieds remués, Chrysélidis, menu et de gris vêtu comme une souris, allait et venait, sans qu'on entendît seulement le bruit de son pas. Sur un signe du maître, elle remplit le gobelet de la mariée. Quoique sa main tremblât, son pur visage demeura calme. Et pourtant, les valets eux-mêmes avaient des larmes aux paupières. 7 jours passèrent, et ce fut un nouvel ordre. Mais quel ordre celui-là! Chrysélidis, dit son maître et époux, il me plaît que vous quittiez le château seul pour n'y plus revenir. Embrassez votre fils et votre fille. Dites-leur adieu. Et il fit amener les 2 enfants qui, éperdus, se jetèrent dans les bras de leur mère. Elle poussa un cri déchirant et les serra follement contre sa poitrine, toute secouée de sanglots. L'instinct maternel avait-il l'emporté sur l'esprit d'obéissance? Non. Elle écarta d'elle ses 2 petits, mais elle se tourna vers le maître, une figure suppliante, bouleversée, que, parmi les assistants, il eut si bouleversé, il y eut un sourd murmure, et que même les durs hommes d'armes pleurèrent. Le baron demeura impassible. Alors, une dernière fois, elle baisa les boucles blondes. Une dernière fois, elle reput ses yeux de ses joues fraîches qu'elle avait tant caressées. Puis de ses bouches vermeilles, dont le balbutiement avait été si cher à son cœur, puis, la tête basse, sans se retourner, Elle partit. Elle traversa la cour. Elle franchit le pont-levis. Elle arriva sur la route. Un grand arbre s'élevait sur un talus vert. À bout de force, elle s'assit sur l'herbe, remercia Dieu de la faire mourir et perdit connaissance. Quand elle revint à elle, elle se trouva couchée dans un lit conjugal. Et ses deux enfants mouillaient ses mains de leurs larmes. Son mari, l'enveloppant de ses bras, penché sur elle, guettait anxieusement son retour à la vie. La chambre était pleine d'écuyers et de gentilshommes également anxieux. Et quand elle ouvrit ses yeux bleus, ce fut comme une tempête de joyeuses acclamations. Alors, on lui révéla que, conseillé sans doute par le diable, le baron avait voulu l'éprouver, qu'il avait voulu voir jusqu'à quel point irait la constance de cette parfaite épouse. Publiquement, ce rude homme lui demanda pardon de tous ces outrageants doutes qu'il pouvait avoir conçus, des souffrances si cruelles qu'il lui avait infligées. Publiquement, genou en terre, il lui jura une affection éternelle dans ce monde et dans l'autre. Et toute l'assistance s'écria « Noël !» comme un miracle. N'était-ce point un miracle, en effet, que tant d'amour, joint à tant de soumission, en une seule femme?